VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 16h en temps universel, midi à Washington. Bonsoir, bienvenue. Le Parlement parallèle libyen installé à Tripoli a jugé que la dernière mouture d'un accord de l'ONU pourrait constituer une base pour un règlement du conflit dans le pays. L'une de ces modifications porte sur le respect d'un jugement de la Cour suprême qui a invalidé en novembre 2014 le Parlement reconnu par la communauté internationale qui siège à Tobrouk dans l'est du pays. En proie au chaos depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye contre deux gouvernements et parlements qui se disputent le pouvoir, l'un dans la capitale Tripoli sous la coupe des milices Fajr Libya et l'autre à Tobrouk dans l'Est, reconnu par la communauté internationale. L'ONU tente depuis des mois de trouver un compromis permettant la formation d'un gouvernement d'union en Libye et espérait aboutir avant début le 18 juin du Ramadan, le mois du jeûne musulman. Le Tchad a décrété à compter de ce mercredi un deuil national de 3 jours, et cela en hommage aux 33 morts du double attentat suicide qui a frappé N'Djamena lundi, selon un dernier bilan officiel. Le point avec Jacques Aristide.
Ces 3 journées de deuil seront observées sur l'ensemble du territoire national, d'après un décret signé hier soir par le président tchadien que cite l'AFP. Pour Idriss Déby Itno, ces deux attentats commis par les éléments de la secte Boko Haram prouvent que les terroristes et leurs commanditaires sont loin d'abandonner les actes macabres et ignobles et leur plan diabolique de détruire le Tchad. Mais le Tchad, ajoute-t-il, ne se pliera jamais devant un chantage terroriste. Et de prévenir que les forces armées tchadiennes sauront répondre à cet affront de manière appropriée et rapide. Ces attaques simultanées n'ont pas été revendiquées, mais les autorités ont rapidement accusé les islamistes nigérians de Boko Haram d'en être les auteurs. L'armée tchadienne participe en première ligne à une opération militaire régionale visant à chasser le groupe du nord-est du Nigeria.
Dans quelques jours, s'ouvre aux États-Unis le Yali 2015, le programme du président Barack Obama pour la formation de jeunes leaders africains. Le programme, qui a sa deuxième année, va durer du 19 juin au 6 août 2015. Les 1000 jeunes africains choisis vont bénéficier de formations diverses dans des universités américaines et certains pourront faire des stages au pays de Long Sam. Cette année, 7 jeunes Burundais ont été retenus. Notre envoyée spéciale à Bujumbura, Bakasikura, a rencontré Mireille Kayeye. Elle a 27 ans. Elle nous parle de la jeunesse de son pays.
C'est une jeunesse qui est très déçue. C'est une jeunesse amère maintenant parce que d'abord, il y a un grand taux de chômage. Il y a un problème d'université. Nous n'avons pas de professeurs. On n'a pas de travail, même si on en cherche. On est pauvre, on mendie, on n'a pas de stage, on n'a pas accès à la possibilité d'apprendre, on n'a pas d'opportunité. Donc c'est une jeunesse fatiguée. Et c'est une jeunesse qui voudrait que les choses changent. Et pour que les choses puissent changer, il faut absolument que la jeunesse se batte. C'est-à-dire à travers les associations, à travers la recherche d'opportunités. Il faut que la jeunesse apprenne à apprendre d'elle-même maintenant. Parce qu'on a vu que notre société ne nous soutient pas très facilement. C'est difficile. Et quand il y a des conflits, la jeunesse est utilisée. Par exemple, récemment dans les manifestations. Donc, on a un problème de leadership. On a besoin d'avoir des leaders, mais en même temps, on a besoin de nous forger nous-mêmes en tant que leaders. Comme ça, ce sera facile.
Mireille Kayeye, bénéficiaire du programme Yali 2015 au Burundi. Les élections locales en République démocratique du Congo semblent fortement compromises après le rejet du projet de loi qui devait en fixer les modalités par un front commun des députés de l'opposition et de la majorité contre ce test jugé bâclé. Cette affirmation d'indépendance des élus congolais survient dans un climat politique tendu et cela à l'approche d'une série de scrutins devant mener à la présidentielle de novembre 2016 et dont la crédibilité est remise en cause par l'opposition, mais aussi une partie de la majorité de la communauté internationale. Au Burkina Faso, campagne pour encourager les femmes à cultiver le coton, premier produit d'exportation du pays, c'est le cheval de bataille de la Sofitex, la société des fibres textiles du Burkina Faso. C'est ce que nous dit notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wonogo.
Ici au Faso, malgré la poussée permanente de l'or, le coton reste toujours le premier contributeur à l'économie nationale. Mais la culture du coton reste aussi dominée par les hommes. Pour donc inverser la tendance, la Sofitex, société des fibres textiles du Burkina, a décidé d'encourager particulièrement les femmes à la culture du coton. Jonas Bayoulou, le secrétaire général de la Sofitex, explique.
Dans les exploitations individuelles, dans le cadre de l'organisation de cette exploitation, les femmes soutiennent souvent leur mari. Mais ce que l'on souhaite surtout encourager, c'est les femmes qui ont décidé par elles-mêmes de se mettre en groupement de producteurs de coton et de s'organiser, prendre les crédits et puis les rembourser tranquillement. C'est surtout cette catégorie-là qu'on souhaite véritablement encourager.
In concreto, comment se traduit cet encouragement? Suivons la réponse de Jonas Bayoulou.
On ne donnera pas de l'argent frais à quelqu'un. L'objectif visé étant de créer les conditions qui permettent aux producteurs de se fixer davantage sur la culture du coton. Donc tous les prix qui seront donnés sont des prix en nature. C'est clair que lorsque vous avez équipé mieux le producteur, lorsque vous l'avez doté de meilleurs moyens de travail, lorsque vous l'avez équipé en magasin pour mieux stocker ses intrants, vous avez préservé un certain nombre de surcoûts qu'ils vivaient et qui vont faciliter le travail qu'ils réalisent sur le terrain.
Que pensent les hommes producteurs de coton de l'accent mis sur les femmes? Écoutons ce qu'en dit le cotonculteur Ardiouma Sanou.
Mais je trouve ça une bonne chose. Aujourd'hui, là, tout le monde doit contribuer au développement. Puis tout ça, là, ça part à la bonne sens de la famille. Aujourd'hui, si moi je n'ai rien, la femme va m'épauler. Alors, surtout, on a des enfants qui sont à l'école aujourd'hui. Si moi je n'ai pas de sous, elle peut me compléter.
Notre cotonculteur avait à ses côtés Mariam, son épouse. Elle explique en langue nationale Djoula comment les femmes s'organisent pour cultiver le coton. Je vais faire un hectare. Nous les femmes, on est organisées en groupement et à tour de rôle, on passe dans le champ de chacune pour cultiver. C'est de la sorte qu'on s'entraide. La culture du coton est certes difficile, mais il y a beaucoup d'argent dedans. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Crise politique au Proche-Orient. Le premier ministre palestinien Rami Abdallah a remis aujourd'hui la démission de son gouvernement d'union en cause de la fracture grandissante entre la Cisjordanie et la bande de Gaza et les discussions que le Hamas mènerait secrètement avec Israël, ici à Kaba.
Conséquence de cette démission du gouvernement, le président palestinien Mahmoud Abbas a ordonné au premier ministre Rami Abdallah de former un nouveau gouvernement. D'après un conseiller à la présidence, cité par l'AFP, il doit commencer immédiatement ses consultations avec tous les mouvements palestiniens, y compris avec le Hamas. Cette démission sanctionne l'incapacité d'agir du gouvernement d'union. Celui-ci avait été formé en 2014 pour mettre fin à des années de division, ayant quasiment tourné à la guerre civile en 2007 entre les deux grands rivaux palestiniens, le Fatah laïque et modéré de Mahmoud Abbas et le Hamas. Ce mouvement islamiste aux commandes de la bande de Gaza a officiellement rejeté tout changement unilatéral de gouvernement auquel il est associé sans le consentement de toutes les parties. Autrement dit, l'organisation refuse la dissolution du gouvernement.
Actualité aux États-Unis, le milliardaire Donald Trump, personnage haut en couleur, a annoncé hier qu'il était candidat à la présidentielle américaine de 2016. Il dit vouloir restaurer la grandeur des États-Unis, mais les experts accordent très peu de chances de succès au magnat de l'immobilier qui se considère comme républicain. Le secrétaire américain à la défense Ashton Carter a jugé mercredi possible que le régime syrien ne finisse par tomber du fait de l'affaiblissement de ses forces militaires. Nous voudrions voit une transition dans laquelle Assad disparaît de la scène, a déclaré le secrétaire à la Défense lors d'une audition devant la Commission des Forces armées de la Chambre des représentants. La Syrie est ravagée depuis plus de 4 ans par un conflit complexe impliquant un régime rebelle, kurde et djihadiste. Et puis l'ONU, qui tente de parvenir à un arrêt des combats au Yémen, s'employait toujours ce mercredi à Genève à persuader les représentants de la rébellion chiite de négocier avec ceux du gouvernement en exil, les deux parties affichant des positions apparemment inconciliables. Jusqu'à présent, aucune percée n'a été enregistrée. Le seul point positif, d'après l'AFP, est que les négociations se poursuivent. Aucune délégation n'a claqué la porte, a expliqué un diplomate occidental qui suit les pourparlers. Faute d'accord politique, l'émissaire spécial de l'ONU, Ismaël Ould Cheikh, cherche à négocier une trêve humanitaire de 15 jours, d'autant que le mois de jeûne musulman du Ramadan commence demain jeudi. Vous suivez Voix Afrique, Jean-Roger Billon à ce microphone. Je vous retrouve dans une heure pour un nouveau point de l'actualité. Merci de nous avoir choisis. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.